Aujourd'hui, je vais vous lire les entretiens de 1957-1958. Le 13 février 1957. Alors, il y a au départ un extrait de Aperçu et pensé de Sri Aurobindo, Les chaînes. Par la douleur et le chagrin, la nature rappelle à l'âme que les plaisirs dont elle jouit sont seulement un faible reflet de la joie réelle de l'existante. Alors, je reprends. Hein. Par la douleur et le chagrin, la nature appelle à l'âme que les plaisirs dont elle jouit sont simplement un simple faible reflet de la joie réelle de l'existence. Chaque souffrance, chaque torture de notre être contient le secret d'une flamme d'extase devant laquelle nos plus grandes jouissances sont comme des lueurs vacillantes. C'est ce secret qui fait l'abstraction de l'âme pour les grandes épreuves, pour les souffrances et les expériences terribles de la vie, alors même que notre mental nerveux les abomine et les fuit. Un commentaire à ces aperçus et pensées de Sri Aurobindo, commenté par Mère. Tout naturellement, nous nous demandons quel est ce secret vers lequel conduit la douleur. Comme une compréhension superficielle et incomplète, on pourrait croire que c'est la douleur que l'âme recherche, il n'en est rien. La nature même de l'âme est la joie divine, constante, invariable, inconditionnée, extatique. Mais il est vrai que si l'on peut faire face avec courage, endurance, une foi inébranlable en la grâce divine, si l'on peut, au lieu de fuir la souffrance quand elle vient à vous, entrer en elle avec cette volonté, cette aspiration de passer à travers elle pour trouver la vérité lumineuse, la joie invariable qui est au fond de toute chose. La porte de la douleur est souvent plus directe, plus immédiate que celle de la satisfaction et du contentement. Je ne parle pas du plaisir parce que lui tourne le dos d'une façon constante et presque totale à cette joie divine profonde. Le plaisir est un déguisement trompeur et perverse qui nous détourne de notre but et que nous ne devons certainement pas rechercher si nous avons hâte de trouver la vérité. Le plaisir nous évapore, il nous trompe, il nous égare. La douleur nous ramène à une vérité plus profonde en nous, obligeant à nous concentrer pour pouvoir endurer, pour pouvoir faire face à cette chose qui broie. C'est dans la douleur que l'on trouve le plus facilement la vraie force, lorsqu'on est fort. C'est dans la douleur que l'on retrouve le plus facilement la vraie foi, celle en quelque chose qui est au-delà et par-dessus toute douleur. Quand on s'amuse et qu'on oublie, quand on prend les choses comme elles viennent, quand on cherche à éviter d'être grave, de regarder la vie en face, en un mot, quand on cherche à oublier qu'il y a un problème à résoudre, qu'il y a quelque chose à trouver, que nous avons une raison d'être et de vivre, que nous ne sommes pas ici juste pour passer notre temps ou pour aller sans savoir, rien appris, rien fait. Alors on perd vraiment son temps. On perd l'occasion qui nous est donnée. Cette occasion, je ne peux pas dire unique, mais merveilleuse, d'une existence qui est le lieu du progrès, qui est le moment de l'éternité où vous pouvez découvrir le secret de la vie. Car l'existence physique, matérielle, est une occasion merveilleuse, une possibilité qui vous est donnée de trouver la raison d'être de la vie pour vous avancer d'un pas vers cette vérité profonde, pour vous faire découvrir ce secret que vous avez en contact avec l'extase éternelle de la vie divine. Après un silence, je vous ai dit bien des fois que de rechercher la souffrance et la douleur est une attitude morbide qu'il faut éviter, mais de fuir devant elle par l'oubli, par un mouvement superficiel, léger, par le divertissement est une lâcheté. Quand la douleur vient, c'est pour nous apprendre quelque chose. Plus vite nous l'apprenons, plus le besoin de la douleur diminue. Et quand nous saurons le secret, il ne sera plus possible de souffrir, car c'est ce secret-là que nous révèle la raison, la cause, l'origine de la souffrance et le moyen de passer au-delà. Le secret, c'est d'émerger de l'ego, de sortir de sa prison, de nous unir au divin, de nous fondre en lui, de ne permettre à rien de nous séparer de lui. Alors une fois que l'on a découvert ce secret et qu'on le réalise dans son être, la douleur a perdu sa raison d'être et la souffrance disparaît. C'est un remède tout-puissant, non seulement dans les parties les plus profondes de l'être, mais dans l'âme, dans la conscience spirituelle, mais aussi dans la vie et dans le corps. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de désordre qui puisse résister à la découverte de ce secret. En pratique, non seulement dans les parties supérieures de l'être, mais dans toutes les cellules du corps. Si on sait leur apprendre la splendeur qui est au-dedans d'elles, si l'on sait leur faire comprendre la réalité qui les fait être, qui leur donne l'existence, alors elles aussi, elles entrent dans une harmonie totale et le désordre physique qui produit la maladie s'évanouit comme tous les autres désordres de l'être. Mais pour cela, il ne faut être ni lâche, ni craintif. Quand le désordre physique vient sur vous, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas fuir. Il faut lui faire face avec courage, tranquillité, confiance, certitude, que la maladie est un mensonge et que si l'on se tourne entièrement, en pleine confiance, en la complète tranquillité vers la grâce divine, elle s'installera dans toutes ses cellules, comme elle s'installe dans les profondeurs de l'être. Et les cellules elles-mêmes participeront à la vérité et à la joie éternelle. Alors, je vais vous donner un autre petit texte qui est très simple. Cette brève conversation avec les enfants a eu lieu exceptionnellement un mardi avant la méditation. Et la mère s'adresse aux enfants, mais aussi à certaines personnes qui sont restées des enfants. Nous avons dit que nous allions nous préparer méthodiquement à la sadhana. Il y a un point sur lequel j'ai déjà insisté beaucoup, mais malheureusement sans beaucoup de résultats parmi vous tous. Et j'ai pensé que peut-être il serait bon de commencer par cela pour vous préparer à une sadhana future. Alors le sujet de notre méditation ce soir sera ainsi. Sur les méfaits de l'incontinence de langage. Très souvent, je vous ai dit que toutes les paroles prononcées inutilement étaient un bavardage dangereux. Mais ici, c'est l'extrême de la situation. Il y a des choses qui ont été dites, répétées, redites par tous les gens qui ont essayé la perfectionner, l'humanité, malheureusement sans grand résultat. Il s'agit surtout du bavardage malfaisant, d'une parole médisante, de ce goût que l'on a à de dire du mal des autres. Celui qui se lève, qui se livre à cette incontinence de langage, avilit sa conscience. Et quand cette incontinence s'ajoute, l'attitude des querelles vulgaires s'exprimant en termes grossiers, alors cela équivaut à un suicide. Le suicide spirituel en soi-même. J'insiste sur ce point et je tiens à ce que vous pouviez le prendre très au sérieux, mère. Alors, je termine aujourd'hui par un texte de Sri Aurobindo. Au point de vue de la conscience, la nouvelle manifestation, la manifestation humaine peut s'expliquer par le jaillissement de la conscience cachée, sortant de son involution dans la nature universelle. Mais dans ce cas, il faut qu'elle ait trouvé quelque chose de forme matérielle déjà existante, comme un véhicule d'émergence. Ce véhicule étant adapté par la force de l'émergence elle-même aux besoins d'une nouvelle création intérieure. À moins de supposer qu'une divergence rapide des types ou des modèles physiques antérieurs ait fait apparaître un être nouveau. Mais quelle que soit l'hypothèse adoptée, on en revient toujours à un processus évolutif. La différence n'est que dans la méthode et le mécanisme de la divergence ou de la transition. Ou bien, Il se peut qu'il y ait eu, au contraire, un jaillissement de la conscience involuée, mais une descente de la mentalité venant d'un plan mental au-dessous de nous, la descente peut-être d'une âme ou d'un être mental dans la nature terrestre. La difficulté serait alors d'expliquer l'apparition du corps humain, organisme trop complexe et délicat pour avoir été créé ou manifesté soudainement. Une opération si miraculeusement rapide, tout en étant possible sur le plan de l'existence supraphysique, ne semble pas, en effet, figurer parmi les possibilités ou les potentialités normales de l'énergie matérielle. Cela pourrait se produire ici-bas que par l'intervention d'une force supraphysique ou d'une loi supraphysique de la nature ou par un mental créateur agissant avec plein pouvoir et directement sur la matière. On peut admettre l'action d'une forme supraphysique ou d'un créateur à chaque apparition nouvelle dans la matière. Et chacune de ces apparitions est au fond un miracle opéré par une conscience secrète, soutenue par une énergie mentale ou une énergie vitale voilée, mais on ne voit nulle part que cette action soit directe, manifeste, indépendante, elle vient toujours se superposer à une base physique déjà existante et élargir un processus déjà établi de la nature. Il est plus facile de concevoir qu'un corps déjà existant se soit ouvert à un influx supraphysique, de telle sorte qu'il ait été transformé en un corps nouveau. Mais on ne peut pas supposer cela à la légère, qu'un tel événement se soit produit dans l'histoire passée de la nature matérielle, car pour se produire, il semblerait nécessaire qu'il y ait eu soit l'intervention consciente d'un être mental invisible pour former le corps qu'il voulait habiter, soit le développement antérieur dans la matière elle-même d'un être mental qui serait déjà capable de recevoir un pouvoir supraphysique et de l'imposer aux formes rigides et étroites de sa propre existence physique. Autrement, nous devons supposer que préexistait un corps déjà suffisamment évolué pour être en état de recevoir un vaste influx mental ou capable de répondre avec souplesse à la descente en lui d'un être mental. Cela supposerait une évolution préalable du mental dans le corps jusqu'au moment où une telle réceptivité devient possible. On peut très bien concevoir qu'une telle évolution d'en bas et une telle descente d'en haut aient coopéré pour faire apparaître l'homme dans la nature terrestre. L'entité psychique secrète sera déjà présente dans l'animal et pourrait avoir fait elle-même descendre l'être mental, le purusha mental, dans le monde de la matière vivante, afin qu'il se saisisse de l'énergie vitale mentale déjà à l'œuvre et la soulève jusqu'à une plus haute mentalité. Mais ceci serait encore un processus évolutif, un plan supérieur n'intervenant que pour aider à l'apparition et à l'élargissement de son propre principe dans la nature terrestre. Alors, c'est un extrait de La vie divine, pages 19 et 22 de Sri Aurobindo. Alors aujourd'hui, je termine ces entretiens de 1957 et 58. Remercie Sri Aurobindo et Mère pour cette lecture. Ganga Lakshmi.